marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Dans le siècle, dans le monde, sorti de soi ou des murs qui vous entourent, retrouvez les autres et la marche du monde.
28-37, ce n'est pas un numéro de téléphone. Les années folles de l'ethnographie.
J'allais au Musée de l'Homme et c'est là qu'un jour j'ai entendu Marcel Griaule parler de l'Abyssinie et de la falaise de Bandiagara. L'ethnologie de l'avant-guerre est née du surréalisme, est née de l'art nègre, est né de ce grand mouvement intellectuel qui a conduit à l'exposition de 1937, à la création du Trocadéro, et de gens qui étaient, pour un jeune garçon de mon âge, absolument fascinants, qui parlaient du monde comme de la banlieue, et qui en ramenaient des images, des objets, qui avaient un tel pouvoir de fascination qu'on avait une seule envie, c'est d'aller voir comment était la réalité, qui d'ailleurs souvent était beaucoup moins belle que celle qui était évoquée là-dedans.
On a entendu tour à tour François Mitterrand et Jean Rouche. Pour les jeunes gens des années 30, du moins ceux qui ne se laissaient pas enfermer dans le nationalisme. On ne parle donc plus ici que de Jean Rouche. Le musée de l'homme était une promesse, celle d'un monde ouvert qui pourrait survenir si on dépassait les préjugés entretenus par les entrepreneurs de haine. Quand il se rappelle cette époque de ses 20 ans, Jean Rouche parle indifféremment, vous l'avez peut-être noté, du musée de l'homme ou du Trocadéro. C'est qu'avant l'ouverture du musée de l'homme dans une aile du palais de Chaillot, construit pour l'expo de 1937, il y avait eu, au même endroit, dans un autre palais, plus ancien, plus biscornu, datant d'une autre expo, celle de 1878, il y avait eu un musée de l'ethnographie. Picasso, revenu effaré de sa visite dans des temps reculés, en a fixé le souvenir. Il aurait été par définition un labyrinthe poussiéreux gardé par des invalides et vide de visiteurs. En fait, dès 1928, quand le Trocadéro est passé sous la tutelle du Muséum, le musée d'ethnographie du Vieux Palais a été dans un sens une préfiguration du musée de l'homme du Nouveau Palais. Il faut en savoir gré au duo qui en assura la direction pendant une dizaine d'années. Il était composé d'un savant vibrant, Paul Rivet, et d'un homme de 20 ans plus jeune, Georges-Henri Rivière, un simple bachelier, mais qui avait toutes les cordes à son arc, animateur d'hommes, metteur en scène d'événements, collecteur de fonds. Imaginez une association entre un chef d'école, comme Fernand Braudel, et un animateur comme Jacques Lang, mais où Braudel aurait eu un peu de Lang, et Lang beaucoup de Braudel. Eh ben, vous serez pas très loin du compte. À l'époque, il y avait des centraux téléphoniques, Passy, Trocadéro. Il faudrait appeler cette aventure Trocadéro 28-37. Ce fut un moment étonnant où les ambitions de la jeune ethnographie française purent s'appuyer sur un musée qui était un centre de recherche et un lieu d'exposition. Un musée qui était à la fois populaire et mondain.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
André Delpech, bonjour.
Bonjour.
Directeur depuis 2017 du Musée de l'Homme. Vous êtes archéologue de formation avec une spécialité de la Caraïbe. Peut-être qu'un jour, vous ferez danser de nouveau la colline de Chaillot.
J'espère bien. On a commencé un petit peu cette année avec un événement qu'on a appelé Femmes Totem de l'Outre-mer. Et on va refaire ça l'année prochaine au mois de mars. Donc rendez-vous au bal du Musée de l'Homme en 2019.
Oui, mais en attendant demain, pour l'anniversaire de l'ouverture en 38 du Musée de l'Homme, des lieux, non pas pour danser, des lieux pour penser. C'est un colloque qui est organisé avec des gens de théâtre, des gens de bibliothèque, des gens de musée. Et puis vous avez publié un livre collectif, vous êtes trois co-directeurs, vous-même, Christine Laurière et Karine Pelletier-Caroff, consacrés à ces années folles de l'ethnographie.
Oui, on a fait une belle aventure éditoriale qui a sorti un gros bébé de plus de 1000 pages, qui raconte une histoire finalement assez méconnue, qui sont ces 10 années, ces années folles justement, on les a baptisées ainsi, qui se sont déroulées avant le Musée de l'Homme. On occulte souvent cette période, on voit un vieux musée tel que celui décrit par Picasso, ce vieux musée poussiéreux du Trocadéro, et on imagine qu'un beau matin de 1937-1938 a surgi du néant ou de la poussière le Musée de l'Homme. C'est pas du tout le cas, et pendant 10 ans, il va y avoir une aventure extraordinaire, scientifique, intellectuelle, mondaine, festive, qui en fait un moment assez unique dans l'anthropologie française.
Il faut rendre grâce à votre autorité de tutelle, qui est toujours le Muséum, qui en 1928 s'établit, non seulement au Quartier Latin, mais sur la colline du Trocadéro. Et Paul Rivet, votre illustre prédécesseur, qui était professeur d'anthropologie au Muséum, devient le directeur du musée d'ethnographie du Trocadéro. Il a déjà une ambition qui sera en partie celle du Musée de l'Homme.
Le musée est un centre d'éducation populaire, un centre de documentation, un centre de recherche et un centre d'enseignement.
Il ne s'agissait pas seulement d'organiser de belles galeries accessibles au public, rendant perceptible à n'importe quel visiteur cette conception synthétique que j'avais de l'humanité, qui est la conception vraie. Il s'agissait aussi de faire de cet établissement un établissement de recherche. Alors on a établi de très grands laboratoires, de très grands magasins, et c'est dans ces laboratoires que précisément se font l'étude des collections et par conséquent que le musée se manifeste non seulement comme instrument d'éducation populaire essentiel, mais également comme un centre de travail et de perfectionnement de la science de l'homme.
Alors cette ambition sera réalisée vraiment à partir de 1938 dans le Nouveau Palais, mais la collecte des collections, le recensement, l'étiquetage, l'inventaire, enfin tout ça est fait de la manière la plus sérieuse par Rivet et ses collaborateurs.
Rivet et Rivière, dans ces périodes du début des années 30, vont en fait véritablement professionnaliser les disciplines. La discipline ethnologique, on verra au travers des missions et des recherches anthropologiques qui sont menées, mais aussi la muséologie. Et effectivement, on a un basculement, un moment où d'ailleurs de manière globale en Europe, cette muséologie est en train de se transformer, notamment dans les pays scandinaves. Ce tandem improbable, comme vous le soulignez tout de suite, va vraiment transformer ce musée ancien, qui était un agrégat de collections mal rangées, un musée clinquant avec des belles salles d'exposition, des réserves, des laboratoires, tout ce qui préfigure ce qui va se développer par la suite et ce qui se passe aujourd'hui dans les musées nationaux.
Parlez-nous de Rivière. Alors, il a 20 ans de moins que Rivet, il n'a pas le même ton, j'imagine, dans la conversation, mais quand Rivet le fait parler au moment de leur première entrevue officielle. Rivière, il avait déjà fait une exposition sur les arts anciens d'Amérique, il était connu de Rivet. Moi, je ferai la science. Et vous? Parce que moi, je suis un homme du peuple, ajoute Rivet. Et vous? Vous ferez la traduction populaire de la science, Rivière.
Ben c'est le coup de génie, on peut dire, de Rivet que d'embaucher Georges-Henri Rivière. Paul Rivet est un médecin militaire, éminent savant, professeur au Muséum d'Histoire Naturelle, avec un parcours académique indiscutable. Et au lieu de prendre comme adjoint ce que tout le monde lui suggérait, un profil similaire, somme toute, venant du muséum, il va embaucher un jeune qui n'a que le baccalauréat, un jeune dandy parisien qui joue du jazz, qui fréquente les milieux mondains de Paris. Et ce cocktail va être explosif et va faire qu'ils vont s'entendre à merveille. Et d'ailleurs, on observe, et notre livre, je pense, le démontre, que c'est avant tout Rivière qui est à la manette, qui est à la manœuvre.
Parce que le modèle pour vous, archéologue, conservateur du patrimoine, patati patata, le modèle pour vous, c'est Rivière.
Et en tout cas,
vous aimeriez bien être un peu Rivière.
Ah mais nous, moi c'est mon ambition, c'est qu'après les années folles de l'ethnographie des années 30, on fasse les années folles du musée de l'homme dans les années qui viennent. C'est-à-dire effectivement de montrer que les musées sont des lieux effectivement pour contempler des œuvres, des lieux pour apprendre, mais aussi des lieux festifs, des lieux pour penser, comme on va en parler dans notre colloque de demain, des lieux pour danser, comme on disait tout à l'heure, pour montrer aussi que étudier, montrer, parler, surtout des sujets comme ceux dont on traite sur l'ethnographie, l'anthropologie l'humanité, ce peut se faire aussi de manière légère tout en étant grave.
Alors montrer, parce que Rivière était un expert de la vitrine et un expert de l'exposition événement, montrer comment il faisait.
Rappelez-vous qu'on a baptisé Rivière le magicien des vitrines. Effectivement, il a véritablement inventé une nouvelle installation des vitrines et des expositions. Et le Trocadéro de ces années-là... Grâce au fil à nylon, qui suspendait effectivement comme un apesanteur avec les moyens de l'époque, les costumes ou les pièces ethnographiques. Et durant ces quelques années, avant que le musée de l'Homme ne se crée, plus de 60 expositions ou rénovations de salles vont être faites. Et donc, il y a en permanence des expositions, en permanence des événements, ce qui va faire de converger le tout Paris au Trocadéro, aussi bien les classes populaires, mais aussi le monde intellectuel et artistique.
Mais moi, je serais membre de votre personnel, je dirais, André Delpech, imiter aussi Rivière pour l'organisation de la cantine, la propreté des lieux, le vestiaire. Il n'a pas imaginé la crèche, mais presque.
C'est ce qui est fascinant aussi chez lui, parce que je le décrivais tout à l'heure, peut-être même de manière un peu caricaturale, comme ce mondain et cette personne qui savait faire, même si le terme est anachronique, le buzz en permanence. Mais c'était aussi quelqu'un qui se préoccupait des choses très pratiques. Il faut voir dans les archives du muséum, par exemple, les notes de service, il rentrait effectivement dans le détail de l'organisation de ce musée. Depuis, on parlait des vitrines, mais aussi le rangement des pièces archéologiques ou ethnographiques dans les magasins, l'installation dans le laboratoire. C'était un homme du détail et un grand professionnel au bout du compte.
À cet instant précis, vous pourriez le faire, il aurait donné l'heure. L'heure, c'est
13h41.
Oui, parce qu'il insistait beaucoup sur l'exactitude et il voulait que tout le monde ait la même horloge.
Oui.
Que les montres soient réglées sur l'horloge centrale.
Alors, c'est un peu... oui, il y avait cette dimension-là, très, très sérieuse. Et en même temps, le Trocadéro de cette époque-là, il ne faut pas le voir aussi comme une institution muséale comme celle d'aujourd'hui. Il manquait beaucoup de moyens, il y avait beaucoup de bénévoles qui venaient aider. Il y avait des gens qui étaient financés par des privés, tellement il y avait peu d'argent. La Société des Amis du Musée d'Ethnographie du Trocadéro, par le biais duquel Rivière captait tout un tas de mécènes et de personnalités influentes aider tout ça. Donc c'était à la fois un système de débrouillardise, un grand pragmatisme et une rigueur scientifique et administrative tout à fait étonnante.
Qu'incarnait quand même particulièrement le docteur, puisqu'il était médecin militaire, Paul Rivet, qu'on va entendre définir l'ethnologie de façon englobante.
Nous avons de plus en plus le sentiment que l'idée de nation est dépassée, que les problèmes humains se posent sur le plan international beaucoup plus que sur le plan national. De nos jours, l'homme se sent de plus en plus solidaire de tous les êtres qui vivent sur toute la Terre. Une grande solidarité humaine s'est développée. Je crois que l'ethnologie y a contribué d'une façon considérable. Se rendre compte qu'il y a des hommes sous toutes les latitudes et sous toutes les longitudes, à travers les âges, qui ont des conceptions différentes de la vie, qui ont imaginé des solutions différentes pour résoudre les problèmes qui se posent à eux et qui sont cependant partout nos égaux et nos frères. Ceci peut développer chez nous un sentiment de compréhension et un sentiment de tolérance. C'est cela, je crois, qui est l'essentiel. L'ethnologie enseigne aux hommes la tolérance et par conséquent peut conduire à orienter l'humanité de demain vers une compréhension toujours plus large, toujours plus profonde, des peuples qui ne sont pas arrivés au même degré de culture que les peuples de l'Europe occidentale ou d'Amérique. Par conséquent, elle fortifie ce sentiment de solidarité qui fait que l'homme blanc doit se sentir le frère de l'homme noir ou de l'homme jaune ou de l'homme rouge, comme on dit en parlant des Indiens d'Amérique. Ce sentiment que tous nous constituons une grande communauté qui dépasse de beaucoup les divisions en patrie et en nation.
Blanc, noir, jaune, on parlait de rouge. Il émet déjà un doute sur le mot rouge, là, Paul Rivet. Une même espèce humaine.
Il faut se replacer dans le contexte de l'époque. Hein. Rappelons qu'au même moment où on parle du Trocadéro, à l'est de Paris se tenait la grande expo coloniale internationale. On est à l'apogée de l'empire colonial et on est aussi dans une période en Europe avec la montée des fascismes et la suite qu'on connaît notamment avec les nazis en Allemagne. Donc effectivement, Paul Rivet à la fois est dans son temps, on parle encore de race. Il n'est pas raciste, mais il a une vision racialiste du monde. Mais en même temps, il porte ce combat, hein, qui va aussi mener politiquement, de montrer que, de réhabiliter les sociétés traditionnelles, de changer le regard qu'on peut avoir sur ces peuples autrefois qualifiés de sauvages. Et de ce point de vue-là, il a une action assez extraordinaire. au Trocadéro, au musée d'ethnographie, puis au musée de l'homme, pour ce combat un petit peu humaniste et universaliste.
Oui, mais enfin, on est là pour s'amuser aussi, hein, dirait Rivière, qui invitait régulièrement Joséphine Baker jusque dans les vitrines des expositions où elle était photographiée, jouant des instruments de musique, arborant des bijoux. La voici, fin des années 1920, au début donc du renouveau du musée d'ethnographie du Trocadéro, et pour une fois, elle chante en anglais.
I don't know why I made you cry. I'm sorry, sweetheart, and yes, although you shouldn't be so lenient with me, I'll try to forgive and forget. But tell me, what can I say after I say I'm sorry? What can I do to prove it to you I'm sorry? I didn't mean to ever be mean to you. If I didn't care, I wouldn't feel like I do. I was all wrong, but right or wrong, I don't blame you. Why should I take somebody like you and shame you? I know that I made you cry, and I'm so sorry, dear. But what can I say, dear, after I say I'm sorry?
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Les années folles de l'ethnographie, c'est le titre d'un livre collectif auquel participe notre invité, le directeur du Musée de l'Homme, André Delpech, et qui est publié aux éditions du Muséum. Alors, il y a des lieux pour danser, demanderait Joséphine Baker. Il y a des lieux pour penser, parce que vous organisez un colloque demain sous ce titre. Il faut quand même qu'on signale les difficultés de votre illustre prédécesseur, je veux dire Georges-Henri Rivière, parce qu'il devait se tenir au courant, non seulement de l'actualité mondaine, financière, économique, muséographique, mais aussi de l'activité ethnographique. Un jour, il a reçu la visite, il n'était pas là d'ailleurs ce jour-là, il était en voyage de noces, il paraît qu'il se mariait. Il a reçu la visite de Marcel Mauss, alors il n'aurait pas encore prononcé le nom de ce grand maître.
Bien sûr, on peut pas parler des années 30 et de l'anthropologie française sans citer le grand maître, parfois considéré comme le père fondateur de l'anthropologie française, Marcel Mauss. Et d'ailleurs, le tandem Marcel Mauss et Paul Rivet, auquel il faut ajouter aussi Lévi Brulle, avait créé dès 1925 l'Institut d'ethnologie, qui est la première structure universitaire qui va enseigner l'ethnologie en France, cette discipline qui, somme toute, est nouvellement née dans ces années-là. Et Marcel Mauss va être un peu une des figures tutélaires, la statue du commandeur Mauss, qui va envoyer tous ces ethnologues apprentis ou jeunes vers l'émission dans le monde entier.
Alors, Georges-Henri Rivière, il est attentif à ce que font les vieux sages, donc il s'en va rue Saint-Jacques à l'Institut d'ethnographie, c'est localisé dans l'Institut de géographie. Et là, il comprend que pour assister au cours de Mauss et devenir ethnologue, il faut connaître le grec, le latin, le sanskrit, l'hébreu, le chinois, et ajoute le maître, je ne mentionne pas l'allemand, l'anglais et le néerlandais, sinon on ne peut rien comprendre au vocabulaire de la discipline. Témoignage sur les cours de Mauss de Bernard Champeau, puis de Jacques Soustel.
Il y avait là une quinzaine d'étudiants à peine. Un petit groupe fort panaché. Il y avait un indochinois, un haïtien, un africain de bonne race, dont je me rappelle qu'il s'appelait Blanche. Et il y avait une étudiante américaine. Il y avait un russe blanc, un gréco-roumain, et puis quelques français. Devant le tableau noir, parlait Mauss.
Jacques Soustel.
Alors, ces cours produisaient sur le débutant un effet de stupeur. Il s'appuyait sur une érudition absolument prodigieuse, gigantesque. Il tirait de sa mémoire inépuisable des exemples empruntés aux Papous, aux Polynésiens, à la Grèce antique, à Rome, à l'Inde védique, au Pueblo du Nouveau-Mexique. Est-ce que je sais ? C'était quelque chose d'absolument extraordinaire. Un torrent qui déferlait littéralement sur nous.
Bernard Champeau, quelle était la physionomie d'un cours de Marcel Mauss ?
Il faut dire que Mauss avait une façon bien à lui d'enseigner. Ce n'était pas un pédagogue. Il arrivait, par exemple, qu'au bout d'un très long moment, on entendait « douzièmement, douzièmement ». Mais on n'avait pas entendu ni le premièrement, ni le deuxièmement, ni le troisièmement. Et diable, en regardant ses notes, il était bien difficile d'apercevoir où pouvait se situer le premièrement, le deuxièmement, le troisièmement.
Mais pourtant, il fallait faire avec les cours, parce que c'était un maître sans livre. Enfin, c'était tout le contraire d'un auteur de manuel. Il disait qu'il semait des feuilles volantes qui étaient autant de petits fœtus.
Marcel Mauss était un anthropologue de cette époque, qu'on a pu qualifier d'ailleurs des fois un peu de manière critique d'anthropologue de fauteuil. C'est-à-dire c'est un homme qui a fait peu ou pas du tout de terrain, mais qui avait effectivement une érudition colossale. Mais avec Marcel Mauss et c'est son manuel d'ethnographie, avec Paul Rivet...
Oui, parce qu'on en a fait quand même un manuel de ces cours.
Exactement, ouais. Voilà. Et ces gens-là, par contre, ont envoyé sur le terrain des nuées de jeunes... ethnologues, archéologues, anthropologues qui à l'époque n'étaient pas du tout connus, mais qui sont devenus les pères fondateurs, les grands savants et les grands intellectuels de l'après-guerre, comme Lévi-Strauss, le roi Gourand ou d'autres encore.
Ah bah, c'était peut-être pas Lévi-Strauss le modèle de l'ethnologue de terrain. Je vais pas dire que c'était un homme de fauteuil. Y a une carte au milieu de votre livre. 115 expéditions dans cette période-là, Trocadéro.
C'est
29-37.
C'est ce qui est fascinant, effectivement. Non seulement il y avait un grand activisme à Paris, au sein du musée, mais le tandem Rivet-Rivière a envoyé de par le monde entier, sur tous les continents, toute une série de missions, qui avaient un but premier, c'était de pratiquer ce qu'on pouvait appeler à l'époque l'ethnographie de sauvetage. On considérait que les sociétés traditionnelles, colonisés, avec en voie de disparition, en tout cas dans leur culture traditionnelle, allaient disparaître et qu'il fallait sauver ce qui pouvait l'être avant leur extinction.
Alors parlons de ce thème de la collecte, parce que vous lui consacrez un texte politique tous azimuts, très opportuniste et assumé comme tel. Je vous cite.
C'est un peu ça. C'est-à-dire que d'un côté, on va publier notamment au départ de la mission Dakar-Djibouti, célèbre de 1931-33, des instructions sommaires pour les collecteurs, où là, c'est un peu le manuel pratique du collecteur, où on va donner tout un tas d'instructions. Et puis, dans la réalité, souvent, c'est pas tout à fait comme ça, parce que les missions sont faites parfois d'individus seuls, qui ramènent ce qu'ils peuvent. Parfois, c'est des équipes plus constituées. Il faut négocier avec les indigènes. Et puis, quoi qu'on en dise, il y a aussi le goût du collectionneur qui peut jouer. Ce qui fait qu'au final, les collections qui aujourd'hui sont, après être passées par le musée de l'homme, sont aujourd'hui au Quai Branly, sont parfois ce que j'ai dit, une sorte d'agrégat improbable de collections venant de partout et au gré aussi des missions et de leur succès et aussi de leur échec, puisque parfois tout ce matériel finissait au fond d'un fleuve ou disparaissait en mer, faute d'avoir pu être ramené au Trocadéro.
Oui, parce qu'il y a des expéditions qui échouent ou dont les noms des meneurs disparaissent, mais... certaines sont inscrites dans les mémoires. Il y a même des femmes qui sont de sacrées chefs ou participantes de missions. On pense à Thérèse Rivière et Germaine Tillion dans les Aurès.
C'est effectivement aussi une marque de fabrique de ce Trocadéro des années folles, c'est l'appel et le recours aux femmes. Il y a beaucoup d'ethnologues, vous en avez cité deux, on pourrait signer Jeanne Cuisinier, Odette Puigedeau, Denise Polm. On a toutes ces missions de femmes, avec aussi cette idée que des femmes peuvent faire parler peut-être aussi leurs congénères dans les tribus ou les groupes et les communautés explorées. Et puis il y a cette modernité aussi dont témoigne toute cette époque.
Denise Polm, que vous citez, la voici qui accompagne la mission Sahara 1935 qui mène au pays d'Ogon, aux côtés de Marcel Griaul.
Nous sommes partis, en fait nous avons traversé le Sahara. Griaul avait obtenu deux camions Renault, de la maison Renault, pour évidemment comme publicité. Et donc nous avons traversé le Sahara et... j'avais jamais eu aussi froid de ma vie, je dois dire. C'était au mois de janvier, et je vous assure que les nuits au Sahara en janvier, il fait pas chaud, ça. Donc nous avons tous pris de bons rhumes, etc., et sommes arrivés toussant, crachant à Gao. Mais enfin, tout ça a été vite oublié. Et donc de Gao, nous avons rejoint Mopti, puis Sanga, où évidemment Griaul a été accueilli avec joie.
Nous sommes ici dans le pays de la brique crue, simplement séchée au soleil et qui, bien qu'elle fonde sous l'eau de pluie, résistera aux tornades les plus violentes. L'harmonie des couleurs est telle entre les habitations et le sol que les agglomérations font corps avec le paysage environnant. Toutes ces terrasses sont en simple terre battue, roulée après chaque pluie et lissée à la paume de la main.
Vous aurez noté qu'on roule en Renault, qu'on fait venir les actualités pâtées, qu'on tourne soi-même des films, qu'on édite des livres, L'espèce humaine, une collection chez Gallimard, bah, tout ça est parfaitement organisé. Alors il faudrait citer Gessin au Mexique, Soustelle au Mexique, Paul Cause, ça c'est bien, chez les peaux rouges d'Amérique, c'est co-organisé avec les scouts de France.
Oui, Paul Cause est un des pères fondateurs du scoutisme en France. Preuve que l'équipe Rivière Rivière faisait feu de tout bois, ils embauchaient aussi des scouts.
Alors puisqu'on est en Amérique, dites-nous un mot, parce que vous êtes un grand spécialiste des Antilles, de l'archéologie des Antilles, de ce qui s'est passé là, aux Antilles, en même temps qu'on fêtait le tricentenaire du rattachement des Antilles à la France. Ça intéressait les populations antillaises, un peu mêlées, non?
Là, on est un peu dans ce que ma collègue Catherine Benoît, avec qui j'ai écrit un article dans cet ouvrage là-dessus, a appelé les impensés de l'anthropologie française. C'est-à-dire que dans cette époque-là, et va falloir attendre bien plus tard, les années 70 ou 80, on s'intéresse en ethnographie au peuple que l'on considère comme le plus traditionnel, le plus pur, entre guillemets, possible, non contacté, dans une forme de nostalgie du néolithique, comme a pu dire Alfred Métraux. Et donc les sociétés créoles, les sociétés métissées issues de l'esclavage, notamment aux Antilles, n'intéressaient pas les anthropologues. Elles n'étaient pas assez exotiques au bout du compte. Et en plus, on est à cette époque-là dans une volonté assimilationniste aux Antilles. 1935, pour fêter le tricentenaire du rattachement des Antilles et de la Guyane à la France, c'est l'occasion de dire « vous êtes français, vous êtes sur le chemin de devenir des vrais français », ce qui débouchera d'ailleurs sur la départementalisation de ces régions juste après-guerre.
Oui, mais cependant, les anthropologues qui viennent là, ils mettent au point des instruments de recherche ou des hypothèses sur la continuité entre l'Afrique et l'Amérique. Ils s'intéressent aux créoles, ils s'intéressent aux marrons. Un article est consacré à Paul Sangnier, le jeune fils de Marc Sangnier, le leader catholique progressiste du Sillon, qui est mort tragiquement et prématurément. Il y a des pionniers là et une occasion manquée, dites-vous.
Il y a quelques pionniers, mais pour la Guyane, il faut faire attention. Les marrons, donc les descendants d'esclaves fugitifs qui se sont réfugiés en forêt, certes sont africains, certes sont des descendants d'esclaves, mais pour les anthropologues de l'époque, à partir du moment où ils vivent dans la forêt, ils sont un petit peu considérés comme des bons primitifs, bons à ethnographier, si je peux utiliser ces termes. Donc ça restera quelques rares études sur les marrons, mais les sociétés créoles qui, eux, vivent dans les plantations, en ville et tout ça, elles sont considérées comme christianisées, complètement occidentalisées, et puis elles sont sur la voie de devenir bien françaises, hein, puisque c'est un peu le leitmotiv de l'époque. Et là, les ethnologues ne vont pas les voir, ne vont pas vouloir les étudier, malgré quelques tentatives, puisque dans ces années-là, preuve aussi du génie de Rivet et Rivière, un projet en 1935 d'une exposition intitulée « Afrique en Amérique » avait été imaginé, mais la suite de l'histoire avec la destruction de ce vieux palais pour faire place au palais de Chaillot de l'Expo universelle de 1937 va stopper cette initiative.
Et puis la Deuxième Guerre mondiale va donner une autre dimension, moins festive mais héroïque, au Musée de l'Homme qui ouvre en 1938 et dont vous marquez l'anniversaire par un colloque des lieux pour danser, hein, c'est ça ?
Des lieux pour penser.
Ah, des lieux pour penser. Bon, c'est ouvert au public quand même.
C'est ouvert au public, mais apparemment nous allons être complets.
Bah, bien sûr, je me réjouis. Alors ça, c'est la technique Georges-Henri Rivière. On fait croire que c'est complet, mais il faut voir derrière de plus près. Et puis alors, votre livre collectif, comme il se doit, Les années folles de l'ethnographie, aux éditions du Muséum. L'émission a été préparée par Hélène Kahn, Négulesco, Frédéric Martin, Franck Olivard, la réalisation Audrey Ripouille, à la technique Patrick Henry.